Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme on aime.
Alexandre Dubé est avec nous pour faire le tour des nouvelles du jour. Monsieur Dubé, bonjour.
Salut Benoît.
Alors, le bilan COVID, ça ressemble à quoi?
On est un peu plus élevé que sur le plateau sur lequel on était là, depuis quelques jours. 754 cas, 7 décès supplémentaires, Benoît, quand même. 3 hospitalisations de plus au net, donc 283. Une personne de moins aux soins intensifs pour un total de 90. Et ce qu'on va surveiller au cours de l'après-midi, c'est cette annonce à 13h du ministre de la Santé, Christian Dubé, qui va déposer son fameux plan pour améliorer le système de santé, pour réussir à trouver des infirmières, parce que en ce moment, la pression est extrêmement forte sur le réseau de la santé. Monsieur Dubé va être accompagné de la ministre, de la présidente du Conseil du Trésor, plutôt Sonia Lebel, du premier ministre François Legault. Et rappelons l'objectif derrière tout ça. C'est de recruter 4000 infirmières, d'instaurer des mesures pour retenir celles qui sont en poste et ultimement arrêter cette saignée. Et le gros problème, c'est au niveau des horaires, parce que souvent, les infirmiers et les infirmières rentrent à l'hôpital, savent quand elles arrivent, mais ne savent pas quand elles vont repartir. Ça n'a aucun bon sens. T'sais, pensons ultimement à la qualité de vie de ces gens-là. Là, en plus là, de travailler dans des conditions difficiles, tu te dis, je sais pas quand je vais rentrer à la maison. Il y en a qui ont des petites familles. Donc, création d'horaires stables. Est-ce qu'on va s'inspirer, par exemple, de ce qui fait dans les autres provinces canadiennes à certains endroits? On veut réduire aussi les heures supplémentaires obligatoires, parce que le TSO, le temps supplémentaire obligatoire, il est là le problème, parce que pour éviter qu'il y ait découverture de services, ben à ce moment-là, les infirmières disent, ben c'est correct, je vais le faire le double chiffre, je vais rester.
Non, non, ils font, tantôt j'avais représentant de l'hôpital Pierre Boucher, t'as un juge qui se lève le soir pour imposer aux infirmières de rester toute la nuit. Il vient d'avoir une ordonnance là, du tribunal administratif du travail à l'hôpital Pierre Boucher, à l'unité de natalité, où les infirmières avaient déjà fait leur quart de travail, puis on leur a imposé un autre quart de travail par-dessus.
Je trouve ça tellement dangereux, ça.
C'était cœur, hein? Avec des petits bébés,
sincèrement,
en plus.
Là. Ah non, mais c'est ça. Mais tu sais, puis honnêtement, là, pensons-y 2 minutes, là. OK? Nous autres, là, on fait une journée normale, là. Mais mettons, on te demande de faire un autre marathon, puis un autre show, là. Est-ce que ton acuité intellectuelle va être la même, ouais. Benoît?
Puis en plus, nous autres, c'est un peu insignifiant, parce que je fais de la radio. Ah oui, moi, si je m'enfarge dans mes affaires, là, il y a personne qui va mourir. Mais là, si tu t'occupes d'un petit bébé prématuré...
T'as une vie entre tes mains.
Ben, je pense que oui.
Oui. Oui. Ouais. Ah non, c'est clair. Alors ça, c'est un enjeu qui est important. J'ai très, très hâte de voir ce qui va être annoncé cet après-midi. Hâte de voir aussi la réaction des syndicats, comment ça va être accueilli au sein des travailleurs et combien tout ça va coûter, faut pas l'oublier.
Mm-hmm. Et on pourra plus aller manifester, là, Alex, toi et moi, écoles pour dire aux enfants de pas se faire vacciner parce que il y a des puces, puis il y a des bactéries, puis ils vont virer en psychopathe zombie.
On pourra plus répondre là aux invitations d'Amalega. Hein. Quel dommage.
Ah, oh, François.
Que c'est dommage.
On le salue quand même. On lui souhaite bonne chance.
on lui souhaite de
se trouver un sens à sa vie. Hein.
Oui, peut-être, hein, parce que il y a ce projet de loi qui a été officiellement déposé. On va en discuter tout au long de la journée en vue d'adopter ce projet de loi qu'a déposé Geneviève Guilbeault, la ministre de la Sécurité publique. Qu'est-ce que ça prévoit, là? Parce que là, il y a eu plusieurs tractations, des rumeurs au cours des derniers jours. Qu'est-ce qu'il y a finalement là-dedans? Interdire les manifestations anti-mesures sanitaires, anti-vaccins à moins de 50 mètres des écoles, mais pas juste des écoles, Benoît. Des services de garde, des centres de vaccination, des centres de dépistage et aussi tous les établissements de santé. Il y a des amendes reliées à ça, de 1 000 à 6 000 $. Et ça, c'est intéressant qu'on ait rajouté ça. Okay? Ceux et celles qui intimident les gens, parce qu'on a vu ça, on l'a vu là, dans les derniers jours, près des écoles, là, Alors ça, à ce moment-là, si tu intimides, si tu menaces des citoyens qui souhaitent avoir accès, par exemple, à un test de dépistage de la COVID ou quoi que ce soit, ah ben là, t'es passible d'une amende de 2 000 à 12 000 $ Là, ça devient du sérieux.
C'est bon.
Maintenant, encore tous faut-il les partis...
Mais l'autre, notre François National, là, qui avait pour 35 000 $ de contravention...
Et même plus, là.
Et ben même, oui, plus. Ça changeait rien à ses convictions profondes.
Non, mais éventuellement, j'ai l'impression que la justice va le rattraper. Maintenant, que vont faire les partis d'opposition? Parce que on a besoin de l'unanimité. Tous les partis d'opposition vont offrir leur collaboration. Le point d'interrogation, c'est le Parti conservateur du Québec qui a demandé certaines conditions. Et M. Legault s'est montré quand même ouvert, là, notamment à accepter la condition posée par le Parti conservateur du Québec de limiter à 30 jours l'application de ce projet de loi-là qui vise à interdire les manifs près des écoles, près des hôpitaux. Mais l'issue de tout ça sera connue un peu plus tard aujourd'hui, après des discussions. Habituellement, juste pour te donner une idée, là, on a un temps de parole d'une minute 27 secondes pour les députés indépendants. Claire Samson, qui maintenant représente le Parti conservateur du Québec, exige d'avoir une heure de temps de parole pour poser ses questions.
J'ai bien de moi. Anna Dire?
T'as l'air à ça.
OK. C'est bon. Il y a aussi une autre école de Montréal qui a dû fermer.
Ouais.
C'est-tu l'école de la professeure en arts plastiques, là, qui voulait pas porter le masque, qui a été pas vaccinée?
Ouais. Ouais. Alors ça, c'est l'histoire derrière l'histoire. C'est intéressant, ça. Bon, la manchette était celle-ci au départ. Autre école a dû fermer ses portes en raison d'une éclosion. C'est des dizaines de jeunes, nous dit-on, qui ont été contaminés à l'école primaire Saint-Émile à Montréal. Donc, l'établissement fermé au moins jusqu'à mardi prochain. L'enquête dévoile pas pour l'instant qui est responsable de cette éclosion-là. Par contre, là, il y a des parents qui commencent à montrer du doigt le comportement d'une enseignante. Une enseignante d'art plastique, là, nous dit-on, le comportement de cette enseignante anti-vaccin qui est remis en question. Et selon les témoignages qu'on entend, ben elle faisait la promotion de ne pas porter le masque en classe. Et elle fait partie aussi des personnes contaminées. Et elle aurait côtoyé plus des trois quarts des 39 personnes qui ont contracté le virus. Maintenant, on va laisser l'enquête se faire. S'il y a des liens à faire, ils seront faits. Mais l'établissement devient la quatrième école à devoir fermer temporairement ses portes. Il y en a une du côté de Sherbrooke. Les deux autres sont toujours sur l'île de Montréal. Et depuis le début de la rentrée, on en est à ça.
Eh bien, ça va bien. Drame familial à Gatineau.
Ouais, ça c'est épouvantable. Puis il y a eu développement là au cours des dernières heures là-dessus, Benoît, parce que bon, on nous confirme là que les victimes sont un père et ses deux filles. C'est sûr que la thèse du drame familial est privilégiée à ce stade-ci par les policiers. Ça s'est produit sur la rue Dunkerque, c'est dans le secteur Elmer à Gatineau. Hier vers 14h, il y a des policiers qui se sont présentés pour faire une vérification de bien-être. Ça, ce que ça veut dire en clair, là, c'est que si quelqu'un est inquiet, par exemple, de l'état de santé de quelqu'un, quoi que ce soit, ben les policiers peuvent aller vérifier. C'est ce qui s'est passé dans ce cas-ci. Il y a eu témoignage du voisinage, entre autres, qui donne un éclairage particulier à tout ça. Les policiers se seraient présentés à plusieurs reprises au cours des dernières semaines au domicile de cette jeune famille-là. Est-ce que c'est en lien avec la séparation ou quoi que ce soit? La famille est établie il y a moins de 2 ans dans le secteur et le drame a frappé, là. C'est toute une communauté en ce moment, mais le dernier développement dans cette triste histoire-là, c'est qu'il s'agit d'un père et de filles.
Bon, et en français, s'il vous plaît.
Oui, parce que les Québécois, en conclusion, se plaignent de plus en plus d'entreprises qui enfreignent les règles sur l'affichage et sur les services en français. Alors, quand on regarde l'année en cours, c'est la pire en matière de plaintes déposées à l'Office québécois de la langue française depuis au moins 5 ans. Et voici les 5 entreprises envers lesquelles les Québécois ont déposé le plus de plaintes. En tête de liste, Tim Hortons. 64 plaintes. Walmart et Dollarama suivent avec 43 et 40 plaintes. Pizza 27 plaintes. Et le supermarché IGA qui a reçu 25 plaintes. Donc, au total, plus de 4326 plaintes qui ont été reçues globalement, là, donc 80% concernent des établissements de la région du Grand Montréal. Es-tu étonné?
Non, mais nous, on a demandé Tim Hortons en entrevue. Puis on a répondu à Mathieu Boulay qui travaille sur l'émission. Nous apprécions entre autres là la conclusion parce qu'ils disent qu'ils sont merveilleux puis ont beaucoup de restaurants. Il dit Tim Horton nous écrit nous apprécions les commentaires des clients. Nous nous efforçons toujours d'en tirer des leçons et de nous améliorer. Bravo.
Ah, bon,
bien que ces rapports ne représentent les expériences des clients que dans environ 6% de nos restaurants au Québec, nous les traitons avec sérieux et continuerons de travailler fort pour ça. C'est comme Justin Trudeau.
Ça, c'est la ligne de Justin.
Ouais,
c'est travailler
ça.
Fort.
Pour offrir aux clients l'expérience qu'ils attendent de nous chez Tim Hortons. Ça, c'est pour le français. Merci, Tim Hortons Media Team.
Non, es-tu rassuré?
Il nous répond avec Tim Hortons Media Team.
Ben oui.
Il nous répond avec, c'est l'équipe qui s'occupe du français, c'est Tim Hortons Media Team. Et en passant, votre publicité avec le client qui a pas de masque encore devant la caisse et son téléphone, moi, je la comprends pas. Ça a été fait en Alberta, je ne sais pas, mais ça roule encore cette publicité-là, alors qu'on dit à tout le monde de porter un masque dans les endroits publics. Je me trompe-tu? Ouais.
Et oui, non, tout à fait. Et ces nouvelles données-là survient au moment où le projet de loi 96 sur la refonte de la loi 101, qui est à l'étape des consultations là, à l'Assemblée nationale, ben que ça prévoit des mesures beaucoup plus sévères en matière de langue et de services d'affichage.
On va voir ça. Alexandre Dubé, merci. À demain.
À demain, Benoît.